Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le Vatican toujours très mobilisé sur le dossier syrien, une réunion d'experts avait lieu ce lundi à l'Académie pontificale des sciences, réunion ouverte par le cardinal Torrent. Le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux reviendra sur les temps forts de cette rencontre, d'où sort un appel au cessez-le-feu en Syrie. La guerre syrienne, il en a été question également lors de la rencontre ce mardi entre le chef de la diplomatie américaine John Kerry et le secrétaire d'État du Saint-Siège, Mgr Parolin. Dans ce magazine, gros plan aussi sur l'ordre de Malte qui a reçu le corps diplomatique ce mardi à Rome. L'occasion de rappeler le rôle de cet ordre hospitalier présent dans de nombreuses crises. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Le Saint-Siège met tout son poids pour tenter de trouver une sortie de crise en Syrie. Une conférence était organisée ce lundi à l'Académie pontificale des sciences, réunissant de nombreux experts sur le thème « Syrie, pouvons-nous rester indifférents ?». Une journée de réflexion qui a permis d'échanger notamment sur l'importance du dialogue et sur le rôle des religions dans leur rapport à la paix. Cette conférence était inaugurée par le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Le cardinal Torrent qui a accepté de revenir sur les temps forts de cette rencontre. Il est au micro d'Hélène Destombes.
C'est d'abord une rencontre qui avait pour but de porter au Saint-Père le point de vue des experts, de diplomates, etc. Et de voir comment le pape et ses collaborateurs pouvaient aider en quelque sorte à accélérer la paix en Syrie. Nous avons commencé par souligner l'importance de Genève 2. Le monde attend quelque chose de très positif, cette seconde réunion, et vraiment des pas significatifs vers la paix. Ce qui a été intéressant, c'est que beaucoup de ces experts ont dit que finalement, à l'origine du conflit en Syrie, c'est surtout les divisions de la région. Et alors, il y a eu 5 points qui sont très concrets. Le cessez-le-feu et l'arrêt de toute violence.
Cessez-le-feu immédiat et sans condition.
Immédiat et sans condition, oui. L'aide humanitaire, les couloirs pour effectivement que l'aide humanitaire arrive aux gens qui sont dans le besoin. Ensuite, la reconstruction matérielle pourra commencer et la reconstruction morale et spirituelle aussi du pays. Et puis la réconciliation, le dialogue interculturel, interreligieux. Et nous avons tous beaucoup insisté sur la nécessité qu'à Genève soient présents tous les acteurs de la région et au-delà.
Tous les acteurs de la région, y compris donc l'Iran.
Oui, parce que, bien sûr, à la suite de l'accord qui vient de passer sur la question nucléaire, c'est un pas très positif et on espère que c'est contagieux. Donc, ce serait très indispensable qu'il soit à Genève 2.
Comment le Saint-Siège entend-il peser sur Genève 2?
Ah bien, ça dépend. Nous allons remettre aujourd'hui au pape le résultat de nos travaux d'hier et c'est lui qui va décider quels gestes on peut accomplir. Je pense qu'il y aura une démarche du Saint-Siège, mais laquelle, c'est impossible de le dire aujourd'hui. Mais c'est sûr que Genève 2 est vraiment quelque chose de très important, ou on progresse, ou bien alors c'est catastrophique.
Le Saint-Siège a une nouvelle fois réclamé que cesse la livraison d'armes à la Syrie également.
Oui, les armes et l'argent, c'est qui sert à acheter les armes. Bien sûr, parce que c'est une source continuelle. Cet argent doit être employé plutôt pour secourir les victimes.
La voix du Saint-Siège est-elle véritablement entendue par les leaders mondiaux?
Elle est entendue, oui, il n'y a pas de doute, maintenant qu'elle soit suivie des faits. Pas toujours. L'autorité morale, le Saint-Siège est une puissance morale, mais c'est une puissance, il ne faut pas oublier ça. Il y a toute une histoire diplomatique qui pèse, évidemment. Et en général, on écoute, d'ailleurs, la grande popularité du pape François fait que les leaders politiques sont toujours curieux et un peu admiratifs aussi de cette popularité. C'est une chose qui était impressionnante. J'ai cité hier ce que disait le pape à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le jeudi 24 août 1939. Le danger est imminent, mais il est encore temps. Rien n'est perdu avec la paix, tout peut l'être avec la guerre. Si on l'avait écouté, on aurait évité des millions de morts.
On peut véritablement considérer que là, la diplomatie est à l'œuvre et elle est en train de s'accélérer pour éviter que la situation ne devienne de plus en plus tragique dans le pays.
Oui, ça c'est la responsabilité des leaders politiques et aussi des Nations Unies. On a beaucoup insisté sur l'importance des Nations Unies. J'en étais très satisfait parce que moi je suis un fervent défenseur des Nations Unies. En particulier le chapitre 6 et le chapitre 7 de la charte qui indiquent très bien ce qu'on doit faire lorsque la paix est menacée, comme c'est le cas. Et je pense que c'est très important que les responsables des sociétés n'oublient pas, c'est que finalement, lorsqu'on a signé la charte, on a dit que cette charte des Nations Unies a pour objet d'éviter la guerre aux générations futures. Or, après plus de 70 ans, on s'aperçoit qu'on combat et on négocie après. Il faudrait faire l'inverse. Donc je crois que c'est très important de rappeler cette importance des Nations Unies.
Le Saint-Siège s'est dit déterminé à soutenir toutes les confessions religieuses et les communautés en Syrie pour qu'elles trouvent une nouvelle entente. Comment l'Église entend-elle agir ?
Les chrétiens ont une responsabilité particulière pour les jeunes, la formation de la jeunesse. Souci du dialogue, ce sera très important aussi pour la reconstitution des institutions démocratiques. Donc il faut retrouver cette convivialité.
Que retiendrez-vous de cette rencontre de ce lundi 13 janvier ?
Eh bien, moi, ce que je retiendrai, c'est le climat dans lequel on a parlé, parce que rarement j'ai vu autant d'amitié, de confiance mutuelle. Bon, c'était très beau. Et je dirais des gens de très grande qualité, qui sont des grands spécialistes, mais avec un souci de servir l'humanité, de servir la cause de la paix, de manière désintéressée et très profonde. Malgré les conflits, malgré les divisions, il est toujours très important de continuer ce chemin de la négociation, du dialogue.
Cette réunion à huis clos a débouché sur un communiqué dans lequel les participants appellent à un cessez-le-feu, la première urgence. La fin des violences doit être accompagnée par l'envoi immédiat d'assistance humanitaire, souligne aussi le texte. Selon les experts, il faut faire en sorte que la Syrie puisse entreprendre, avec le soutien financier et humain mondial, un parcours de reconstruction, qu'elle puisse commencer avant même que soient résolues toutes les questions politiques et sociales. Le Saint-Siège, qui soutient par ailleurs toutes les religions et toutes les communautés en Syrie, dans l'espoir d'une nouvelle compréhension et de la restauration de la confiance après des années de violence. C'est ce que l'on peut lire aussi dans ce communiqué, un communiqué que vous pouvez retrouver plus en détail sur notre site internet www.radiovaticana.va. Une visite importante ce mardi au Vatican, le secrétaire d'État américain John Kerry était reçu par son homologue, Mgr Parolin, une rencontre qui a duré plus d'une heure et demie, l'occasion de faire un large tour d'horizon. Le porte-parole du Saint-Siège a souligné que l'entrevue avec John Kerry, très fructueuse et très riche, avait permis d'aborder de nombreux sujets de politique internationale, et en premier lieu le dossier syrien. Les deux parties ont réaffirmé l'importance de la conférence de Genève 2 qui se tiendra la semaine prochaine. Ils ont également parlé des négociations israélo-palestiniennes ainsi que du conflit qui ravage le sud du Soudan. Le Saint-Siège a aussi tenu à aborder la question de la réforme du système de santé aux États-Unis, rappelant son attachement à la liberté religieuse et à la liberté de conscience. De nouvelles arrestations de chrétiens en Iran pendant la période de Noël. La police a arrêté 4 chrétiens réunis dans une maison de Karaj, une petite ville près de Téhéran, alors qu'ils célébraient le nouvel an en prière. C'est une triste habitude dans le pays à cette période de l'année. Antonino Gallofaro.
Les policiers, après avoir roué de coups les chrétiens, les ont transférés dans un lieu inconnu, rapporte l'agence d'information Vatican Fides. Un autre groupe de chrétiens a été arrêté aux alentours de Noël dans une maison de Téhéran. Selon les sources locales relayées par Fides, les pressions sur la communauté chrétienne iranienne s'intensifient durant le temps de Noël et du Nouvel An. La police mène de fréquentes incursions afin de décourager les fidèles qui se réunissent dans les églises domestiques, qui seraient pour les autorités un danger pour la sécurité nationale. Bien qu'il existe des églises officiellement reconnues en Iran, elles subissent de fortes pressions de la part de l'État et leurs activités sont surveillées de près, selon l'ONG Portes Ouvertes, qui œuvre à la protection des chrétiens persécutés. Elles n'ont pas le droit d'organiser des cérémonies religieuses le vendredi, ni de célébrer leur culte en farsi, la langue officielle du pays. Mais cela n'a pas empêché des milliers d'Iraniens de se convertir au christianisme. Malgré cela, selon un récent rapport de l'ONG, l'Iran se place parmi les 10 premiers pays du monde concernant les persécutions contre les chrétiens.
Le grand maître de l'ordre souverain de Malte a reçu le corps diplomatique ce mardi à Rome pour l'échange traditionnel des vœux à la Villa Magistrale. L'ordre entretient des rapports diplomatiques avec 104 États dans le monde. Dans son discours, Fra Matthew Festing a balayé les principales crises humanitaires dans lesquelles l'ordre est engagé par des actions médico-sociales, mais aussi par des initiatives socio-culturelles et de la prévention du patrimoine religieux. Romilda Ferrotto.
Quand le grand maître de l'ordre de Malte s'adresse au corps diplomatique, son discours est tout, sauf protocolaire. Et c'est un panorama concret et détaillé qu'il a brossé ce mardi matin, évoquant les crises humanitaires qui retiennent l'attention de la communauté internationale. Les ravages provoqués par le typhon Enan aux Philippines, le drame des réfugiés syriens, au Liban, en Turquie, en Bulgarie, la Centrafrique, où l'ordre a offert un équipement supplémentaire. 9 siècles après sa reconnaissance officielle, l'ordre souverain de Malte est plus que jamais engagé aux côtés des nécessiteux, de ceux qui souffrent, des communautés marginalisées comme le peuple rom. Il est présent sur la frontière Ouganda-RDC et vient en aide aux milliers de femmes et d'enfants victimes de violences sexuelles. Il est présent à Lampedusa, l'île symbole de la tragédie de ceux qui fuient la guerre, la famine, la persécution, à la merci des trafiquants sans scrupules. Pour le grand maître de l'ordre de Malte, la question de l'identité est aujourd'hui au cœur de nombreuses confrontations. Elle est le résultat de l'effondrement des grandes idéologies qui ont marqué le XXe siècle. L'humanité est à la recherche de références culturelles, d'une identité territoriale, de repères religieux, de valeurs spirituelles, a-t-il dit. Parallèlement, les limites de la globalisation entraînent le retour des États et l'apparition d'une nouvelle géopolitique, d'où l'importance de la diplomatie, traditionnelle, mais aussi culturelle, économique et humanitaire. En vertu de sa nature indépendante, apolitique et neutre, l'ordre de Malte continuera à construire des ponts de dialogue et à conduire des missions d'assistance et de médiation en les mettant à la disposition de la communauté internationale.
Et dans son discours, le grand maître de l'ordre de Malte a remercié entre autres le royaume de Belgique pour la mise en œuvre d'un accord qui vise à soutenir l'hôpital de la Sainte Famille à Bethléem, devenu une maternité. Depuis 1990, cet hôpital accueille les femmes de Bethléem et de sa région et prend en charge les frais d'admission et de soins des familles défavorisées. Je vous propose d'écouter à ce sujet Charles Guilin, l'ambassadeur de Belgique auprès du Saint-Siège et de l'Ordre de Malte.
Voici déjà plusieurs années que les autorités belges ont décidé de soutenir cette institution remarquable qu'est l'hôpital de la Sainte Famille à Bethléem, particulièrement la maternité, qui fait un travail extraordinaire auprès de la population palestinienne qui, il faut bien le reconnaître, est fréquemment dans des situations de détresse. C'est précisément par le canal de ce soutien à cet hôpital que nous avons développé notre relation de collaboration avec l'ordre et que nous avons décidé de conclure un accord formel de coopération entre le ministère belge des Affaires étrangères et l'ordre de Malte sur des projets humanitaires partout dans le monde. Et le premier projet dans le cadre de cet accord de coopération à se concrétiser a été en effet une nouvelle tranche de soutien financier et avec des instruments scientifiques à l'hôpital de Bethléem. C'est le premier projet dans le cadre de cet accord de coopération. Il en viendra d'autres cette année-ci probablement et certainement dans les années suivantes. Nous entendons développer cette coopération le plus possible. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà un exemple de futur projet déjà à signaler ?
Nous souhaiterions qu'un projet au Congo puisse se développer.
Dans son discours, le grand maître a fait le tour de plusieurs crises et il a terminé par une réflexion sur la racine peut-être des crises actuelles, cette quête d'identité, le retour des États et l'importance de la diplomatie. Comment est-ce que vous avez accueilli cette allusion ?
Vous savez comme moi que quand les diplomates se taisent, ce sont les armes qui parlent. Donc les diplomates sont plus que jamais nécessaires. Et c'est vrai, le retour vers les identités, est-ce forcément un mal ? Non, moi il ne me semble pas. Nous Belges avons notre propre identité multiple, mais notre propre identité, et il n'y a pas de mal à ça.
Pourtant en ce moment, les identités sont à l'origine de bien des conflits.
Bien sûr, tout dépend comment on se gère les choses. La Belgique existe depuis 1830. Nous avons 3 identités culturelles bien précises qui nous différencient entre nous, mais également par rapport à nos voisins. Le sang n'a jamais coulé en Belgique entre ces 3 communautés. Nous avons toujours tout réglé par des compromis et des conversations qui pouvaient durer des semaines, des mois, voire près d'années. L'essentiel est de faire les choses par le dialogue. Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, mais prenez exemple sur la Belgique. Le dialogue est la seule voie par laquelle les identités peuvent s'affirmer sans violence et sans conflit.
Des propos recueillis par Romilda Ferrauto. Nous parlions de l'hôpital de la Sainte Famille de Bethléem. Sachez que la visite annuelle de la Coordination pour la Terre Sainte se poursuit. Cette délégation des évêques de l'Union européenne, d'Amérique du Nord et Afrique du Sud est sur place jusqu'au 16 janvier. Au cours de cette visite, elle doit se rendre à Jérusalem, à Tel Aviv, à Bethléem, à Gaza ainsi que dans la vallée de Crémizan. Ces visites sont organisées depuis 1998 par la Conférence épiscopale d'Angleterre et du Pays de Galles sous le parrainage du Conseil des conférences épiscopales d'Europe et dans le but de freiner l'hémorragie des chrétiens de Terre Sainte. Suzanne Hodges, notre consoeur du programme anglais de Radio Vatican, est sur place avec ses évêques. Elle a interrogé Mgr Paul-André Durocher, le président de la Conférence épiscopale du Canada, membre de la délégation. Il revient notamment sur la visite des évêques auprès des chrétiens de la bande de Gaza.
Je ne suis pas totalement surpris de ce que j'ai vu aujourd'hui parce que, comme beaucoup d'autres, j'étais au courant des situations dramatiques qui se vivent ici, dans la bande de Gaza. L'impact de la fermeture de la frontière, l'impact aussi de la tempête qu'il y a eu il y a 2 semaines ici. Mais ce qui m'a vraiment touché, ce sont les rencontres, de rencontrer les gens qui vivent ici, de célébrer avec la communauté catholique, la petite communauté, de voir la joie, on pourrait dire même l'espérance, surtout dans les yeux des enfants. Ça m'a beaucoup touché. Et de rencontrer des gens aussi qui sont engagés dans des projets de développement communautaire avec l'aide d'organismes non gouvernementaux, des gens qui ne perdent pas espoir et qui continuent à lutter pour une vie meilleure, même au cœur de cette grande pauvreté. Pour moi, c'est vraiment une expérience d'espérance.
Avant de refermer ce journal, sachez que le diocèse de Stockton, en Californie, s'est déclaré en faillite ce mardi en raison des importants dédommagements qu'il a dû verser pour des abus sexuels commis par des membres de son clergé. Le diocèse qui s'est mis sous la protection du chapitre 11 du droit fédéral des faillites, une procédure judiciaire où l'entreprise, assaillie par ses créanciers, se met sous la protection d'un tribunal spécialisé, la Bankruptcy Court. Monseigneur Stéphane Blair, l'évêque de Stockton, a expliqué que la démarche était la seule option pour faire face aux obligations financières du diocèse, précisant que cette mesure ne toucherait que le budget du diocèse et n'affectera pas les finances des paroisses. Monseigneur Blair, qui a réaffirmé que son diocèse se trouvait dans cette situation à cause des prêtres qui ont perpétré des actes abominables et non à cause de leurs victimes. Le diocèse de Stockton a déjà versé près de 37 millions de dollars à titre de compensation suite à 38 cas d'abus sexuels. Il est le 10e diocèse catholique des États-Unis à recourir à la protection du chapitre 11. Et puis un dernier mot des États-Unis où l'archevêque de Los Angeles, Mgr José Gomez, plaide pour que la pression se poursuive sur le gouvernement en vue d'une révision de la politique de l'immigration du pays. Il l'a fait en demandant une approche plus humaine à l'encontre des immigrés. Il s'agit toujours et avant tout d'êtres humains, a-t-il dit. Une prise de position à l'occasion d'une conférence dédiée au thème de l'immigration qui était organisée au Rotary Club de Los Angeles en marge de la Semaine nationale de la migration qui a eu lieu du 5 au 11 janvier dans le pays. La conférence épiscopale américaine qui cherche à sensibiliser sur la situation parfois très difficile dans laquelle se trouvent les immigrés, en particulier les enfants. Nous oublions les personnes qui meurent actuellement dans le désert en tentant d'atteindre nos frontières, a dénoncé l'archevêque de Los Angeles, où les femmes et les enfants victimes des contrebandiers et des trafiquants d'êtres humains. L'archevêque qui a dénoncé notamment des irruptions d'agents réalisées afin d'effectuer des contrôles d'identité, mais aussi d'autres actions relatives à la détention des immigrés. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.